RCF.
Namur, quand c'était la guerre. Recueil de témoignages sur Namur et les Namurois durant la Seconde Guerre mondiale. Une émission de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne, soutenue par la province de Namur dans le cadre de l'appel à projet Territoire de mémoire, par la ville de Namur et par RCF Sud-Belgique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Richard Dessart de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Namur quand c'était la guerre. C'est déjà le quatrième témoignage que l'on va entendre aujourd'hui. Et aujourd'hui, on part à Saint-Marc à la rencontre d'Emile Wouters. Il a 86 ans aujourd'hui, mais au moment de la guerre, il était à Salzine dans la rue Patonnier que vous connaissez bien. C'est cette rue par laquelle on arrive en voiture vers Namur. Logiquement, vous devez situer la rue Patonnier. Et avec lui, on va parler notamment du bombardement du 18 août. On va aussi parler de résistance avec son oncle Albert Wouters qu'il allait nourrir sans le savoir en cachette dans le désert de la Malagne. Vous verrez, c'est vraiment très palpitant et prenant comme histoire. Si vous aussi, vous souhaitez nous contacter pour témoigner, eh bien, il y a plusieurs possibilités à cela. Soit par internet sur le site www.namurenguerre.be, par email à l'adresse info@namurinc.be, info@namurinc.be, par téléphone au 0474 114 909, 0474 114 909, ou par courrier ASBL Namur Inc, rue Moncrabeau 6, à 5000 Namur, et je vous laisse en compagnie maintenant d'Emile Wouters.
Pendant l'occupation, ce que je me souviens, c'est les ravitaillements. Les familles recevaient des timbres et ma maman m'envoyait faire des files, faire la file pour aller chercher avec les timbres un peu de beurre, du pain aussi. On avait du pain allemand qui était noir comme ça, assez spécial. Alors une anecdote, ça peut être, moi ça nous a frappé en tout cas. Il y avait un marchand de légumes ambulant avant la guerre, c'était Léandre Vandendal, et il avait un cheval et une charrette à bras, et il descendait de la citadelle, il cultivait là-bas, et il venait vendre ses légumes et compagnie. Et quand les Allemands sont arrivés, ils ont réquisitionné les chevaux, ils n'avaient plus de cheval. Alors il descendait, c'est lui qui tirait la charrette, et il avait mis un écriteau: voici l'ordre nouveau, c'est lui qui fait les chevaux. C'est assez cocasse, là. Tout le monde a rigolé dans la rue, bien sûr, etc. Ça, je me rappelle de ça. Alors, vers la fin 42-43, je ne sais plus très bien exactement, mais c'était en hiver en tout cas, mon père est revenu d'Allemagne. Il a été libéré du camp, donc en tant que Flamand. Les Allemands avaient décidé que les Flamands pouvaient revenir. Il avait perdu presque toutes ses dents. C'est bien que ses vêtements étaient remplis de poules, ils avaient mis dehors. Mon père était néerlandophone. Il était né à Bourg-Léopold et son père était à l'armée. Il est né en 1, lui. Et son père était à l'armée à l'époque et à la guerre 14-18. Après la guerre 14-18, son père a été envoyé en Allemagne pour l'occupation des Allemands, l'armée. Hein. Et là, mon père était tout jeune, a voulu suivre son père et il s'est engagé à l'armée à l'époque. Mais il est resté 2-3 ans, je crois, en Allemagne, je ne sais pas. Comme il était né néerlandophone, il connaissait parfaitement le néerlandais. Parfaitement français, et alors il est devenu trilingue avec l'allemand, quoi. Ce qui lui a valu d'être interprète dans le camp, dans le baraquement où il était pour les Allemands. Alors, ça lui a servi dans ce sens que les Allemands, à un moment donné, ont décidé de libérer les Flamands. Mais pour savoir qui était Flamand, qui ne l'était pas, ils faisaient sortir par file indienne dans le baraquement, des baraquements, donc les soldats. Il y avait des officiers qui étaient là et ils prenaient mon père comme interprète et ils donnaient des phrases à traduire des phrases en allemand, donc à traduire en néerlandais, et mon père devait vérifier si les gens répondaient correctement en néerlandais. Alors ils ont fait ça plusieurs fois, disons qu'il y avait un contingent qui partait ce mois-ci, puis un le mois suivant, etc. Et mon père a remarqué que c'était toujours à peu près les trois phrases, les trois mêmes questions. Alors il a appris à des Wallons les réponses, et sur ses doigts, il faisait réponse 1, réponse 2, réponse 3. Et un Wallon qui habitait dans notre rue, là-bas, qui vendait un marchand de liqueurs, c'est M. Lemmens, ne connaissait pas votre flamand. Grâce à ça, il est revenu. On ne le savait pas, parce que papa n'a jamais raconté ça. Mais c'est à la nouvelle année que M. Lemmens est revenu à la maison pour remercier mon père et lui apporter une bouteille de fine. Et alors, il a raconté ça. Et alors, on a été surpris. Maman aussi, on ne le savait pas. Quoi.
Et vous savez comment il est rentré, votre père ?
En train. En train. Il est revenu en train. Et à la gare de Namur, il est revenu à pied jusque. Il est d'abord passé chez mon oncle, qui tenait un café place Wirtz, la taverne Wirtz. Il était fatigué, il avait soif, etc. Et alors, de là, c'est ma tante qui est venue prévenir maman que papa était là. Il n'était pas tout seul, il y a plusieurs autres soldats de Namur, quoi.
Pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver.
Pendant la guerre, j'ai vécu une chose assez spéciale. On était gamin, on jouait beaucoup dans les rues, il n'y avait presque pas de voiture à l'époque. Et il y a eu une explosion rue Balthazar Florence. Et on était place Wirtz, donc à vue de nez, on a vu la fumée, etc. Et forcément, on est couru voir. Et là, je me souviens qu'au coin de la rue Balthazar Florence, il y avait un cratère, là, etc. Et il y avait une botte allemande avec une jambe dedans. C'était en fait des militaires allemands qui avaient sorti d'une maison une bombe pour la charger dans un camion, etc. Et en descendant du trottoir, la bombe a explosé. Donc ils ont été tués. Et on a eu le détail de ça parce que M. Billa habitait quelques maisons en face de cette maison-là. Et eux, ils regardaient ce qui se passait naturellement. Et c'était un ami de papa qui avait nous raconté, etc. Et nous, alors, on avait vu ça. Alors, tout de suite, il y a des Allemands qui sont arrivés, qui ont chassé les curieux, comme on dit. Voilà. Alors, pendant la guerre, presque chaque année, j'allais passer les vacances scolaires, une partie de mes vacances scolaires chez mon grand-père paternel, cette fois-ci, à Vuillepion. Il habitait tout à fait au-dessus de Vuillepion. Et il m'a emmené en promenade, comme ça, jusqu'au château de la Marlagne, qui était détruit, je crois. Enfin, c'était des ruines, etc. Mais il y avait encore un portail et des grilles qui étaient ouvertes, là, etc. Et mon grand-père déposait, j'appelle ça un colis, quoi, je ne sais pas, derrière le mur, et il me disait que c'était pour nourrir un ermite. Je le croyais sur parole, je ne savais pas du tout ce qu'il faisait. Et puis, après avoir été plusieurs fois avec lui, il me dit un jour, « Tu connais le chemin maintenant, hein ? Ben, tu vas aller tout seul parce que moi, j'ai autre chose à faire. Car ta grand-mère a préparé un plat. » Je me rappelle encore, c'était un plat. Elle avait entouré ça d'un essuie de vaisselle qu'elle avait noué avec les quatre bouts, là. Elle dit, « Tu vas aller porter ça et le déposer. » Là où je dépose d'habitude, derrière le mur. Puis je suis parti, je suis revenu, je ne me suis pas posé de questions. Et c'est après la guerre que mon grand-père paternel et ma grand-mère ont fêté leur noce d'or. Et là, j'avais 15-16 ans à ce moment-là. Et il m'a appelé avec son plus jeune frère, un oncle de papa, mon oncle Albert. Et il a dit à mon oncle Albert, tu vois, ben c'est Émile qui t'a porté mon revolver et les munitions. En fait, mon oncle Albert, ça c'est encore autre chose, mais il s'était fait engager à la commandanture. C'était un bâtiment qui se trouvait juste avant le pont de Sardine. Quand on part de Sardine vers Namur, il y a un grand bâtiment là, et c'était la commandanture allemande là. Lui aussi était néerlandophone, connaissait l'allemand, et s'était fait engager comme interprète là. Mais ils avaient la fibre de la résistance, de leur papa, etc. Et il a, à un moment donné, su prendre note de fiches, de listes que les Allemands allaient arrêter des jeunes gens, etc., dans Namur. Et bien sûr, il a communiqué ça. Et les Allemands, après plusieurs fois, ils sont revenus bredouille parce qu'ils arrivaient de nuit et les jeunes gens n'étaient pas là, quoi. Alors ils ont eu vent, ils ont soupçonné mon oncle qu'il trafiquait sûrement quelque chose. Et un jour, en arrivant pour prendre son service, ça a été relaté, il y a eu un livre à ce sujet-là. Quand il est arrivé, donc, il y a deux soldats allemands qui l'attendaient dans le couloir. Ils lui ont dit, le commandant veut vous voir. Il est entré chez le commandant. Un soldat est resté derrière la porte, il l'a su après. Et puis, le commandant a commencé à l'interroger. Et là, il a senti que ça sentait mauvais, quoi, il allait être pris, quoi. Il avait remarqué en entrant que l'Allemand était derrière le bureau, comme pour ça, et devant le bureau, à droite, mon oncle était ici, il y avait un porte-manteau, le ceinturon avec le revolver de l'Allemand était là, et il y avait un récipient, comme on met les parapluies, quoi, etc., et il y avait la canne de l'officier avec un pommeau d'argent. Là. Et quand il a senti qu'il allait être pris, il a sauté sur la canne, il a assommé le commandant, il a pris le revolver, et puis il s'est sauvé, mais il y avait un soldat juste derrière, quoi. Là, il n'a jamais su, je sais bien qu'il a tiré dessus, mais ce soldat a crié au secours, lui a couru et a remonté tout le pont de Sardine pour se sauver par le, le pont de Sardinia. Et des soldats de l'étage le poursuivaient. Pas de chance, un tram descendait de Namur, et sur la plateforme, il y avait deux SS qui ont sauté en bas du tram pour le coincer, quoi. Après, il a bifurqué le long du parc, il est descendu sur le chemin du halage, et là, il y avait une péniche, et il y avait un vélo sur le toit, là. Et il a crié au batelier, « Jetez-moi le vélo, jetez-moi le vélo !» Le batelier n'a pas réagi, n'a pas compris ce qui se passait, et là, il a été arrêté. Alors, il a été enfermé dans une forteresse à Wied. Là, il a été torturé. Il a d'ailleurs perdu l'audition. Puis il a été envoyé à Brendon, et de là, il a été déporté en Allemagne. Et il est parvenu à se sauver, et c'est ça qu'il est. On l'a retrouvé dans les bois de Marlagne. Il faisait de la résistance avec des résistants là-bas. Et c'est là que mon grand-père allait porter de la nourriture et le revolver de service de mon grand-père.
Sous le règne de François Ier, le beau ferronnier, paraît que la fille du grand prévôt avait un petit gigolo. Elle s'en allait près de lui quand venait la nuit. Sa vieille gouvernante lui disait, Gertrude, qu'est-ce que tu fais? Si tu sors sans ton papa, méfie-toi de la papa, méfie-toi de la papa de la patrouille. Car son chef, le grand Popol, n'aime pas qu'on batifole. C'est un type qui se pousse du col et qui boit des alcools. S'il te voit sans ton papa, il ne te rattrapera pas et te fera coffrer papa par la patrouille. Mais l'amour, c'est comme les vaccins, ça démange tout plein. Et derrière Saint-Germain, l'Auxerrois, elle voyait son beau du noir. Que risquait-il le beau Dudu, mais d'être pendu? Et comme dans le fond, ça l'inquiétait, à sa gosse, il chantait. Si tu sors sans ton papa, méfie-toi de la papa, méfie-toi de la papa, de la patrouille. À ce moment, le grand Popol déboucha de la rue Saint-Paul. Il les vit, eut une rage folle, les saisit par le col. La petite devint papa, devint pas l'autre, car voilà qu'elle fut arrêtée papa par la patrouille. Le joli Dunois fut pendu, Gertrude fut battue. Mais depuis lors, d'autres amants sont toujours très imprudents. C'est pourquoi nous autres qui avons l'âge de raison, nous devons chanter aux jeunes gens d'un air intelligent. Si tu sors sans ton papa, méfie-toi de la papa, méfie-toi de la papa, de la patrouille. Du sixième jusqu'au sous-sol, en fa dièse, en mi bémol, en do, en ré ou en sol, chantons tous à plein col. Si tu sors sans ton papa, méfie-toi de la papa, méfie-toi de la papa, de la patrouille.
Alors je me souviens naturellement du bombardement du 18 août 44. Ça, et plus spécialement parce que mon frère était justement parti en ville. Je ne sais que faire, ça, je ne sais plus pourquoi il était parti en ville. Il était plus âgé que moi, lui. Hein. Et il a subi les bombardements, lui. Et il nous a raconté qu'il pleuvait des bombes à gauche et à droite. Il ne savait plus trop bien. Il était tout près du théâtre. Donc là, il y a eu des bombes qui sont tombées. Et il revenait vers Sardine et arrivait rue Pépin. Il y a un monsieur qui l'a vu, qui l'a attrapé, qui l'a fait entrer et se cacher dans les caves, quoi, jusqu'à la fin du bombardement. Je sais que maman pleurait parce qu'on se rendait compte que la ville avait été bombardée. Elle savait que mon frère était là. Enfin, il est revenu. Par contre, ce que je me souviens, c'est qu'on regardait par la fenêtre des charrettes à bras, des brouettes, des ambulances avec des blessés, etc., bandés, et qui montaient pour à la clinique Sainte-Élisabeth. Ça, je me rappelle de ça. C'était assez impressionnant, quoi.
Et vous êtes allé voir après les ruines?
Non, ça, je ne me souviens pas. Je crois que maman ne voulait pas. Non, ça, je n'ai pas été, non. Mon frère avait une frousse bleue. Quand il y avait encore une alerte après, il était le premier à la cave. Ça, Il avait peur. Et parce que moi, j'allais à l'école des frères à Salzine. C'était le nom de l'église, il y avait un pass, l'école est tout à fait d'enfants. Et chaque fois qu'il y avait une alerte, parce que les avions venaient bombarder, ben on sortait de l'école en rang et on allait se mettre dans les caves en dessous de l'église. Donc ça a été souvent, souvent, souvent. Et j'ai un souvenir aussi, c'était un dimanche, il faisait très très beau, et maman me dit, pendant que je prépare le dîner, allez conduire, promenez votre petite sœur, allez un petit peu à la citadelle hein, et vous revenez pour dîner. Et on avait un landau et ma petite sœur était attachée avec une ceinture là. Et là, mon frère et moi, on monte à la citadelle par le chemin du panorama, là, etc. Et arrivé un peu avant la chapelle Sainte-Thérèse, un peu avant, je sais qu'il y avait une petite coulée d'eau, comme une petite cascade comme ça sur le talus. Il y a eu une alerte et mon frère a arraché ma soeur, moi il avait peur, lui, hein, et on s'est couché dans le talus. Et passé au-dessus de nous, l'aviation américaine ou anglaise, je ne sais pas, et il descendait par là, et il descendait sur les bâprés et il bombardait les bâprés. Et après l'alerte, nous sommes descendus, mais ce sont des lacets, je ne sais pas si vous voyez là, mais il y avait des escaliers là. Et mon frère, on a descendu des escaliers pour gagner du temps. Et on est remonté toute l'avenue Reda Street, là. Et arrivé presque à la place Wirtz, de nouveau des bombardements. Et là, il y avait une pâtisserie à l'époque. Et les gens nous ont fait rentrer là. Et c'est après l'alerte qu'on est rentré à la maison. Ça, je me rappelle encore de ces avions qui étaient très, très bas. Hein. Ils volaient à basse altitude, comme ça. Ils plongeaient sur sa ville, là. Un petit peu avant la fin de la guerre. Hein, mais... Alors, il y a eu le repli de l'armée allemande. Et là, je me rappelle très bien que des canons d'Allemands, etc., descendaient la rue Petonnier et repartaient, je ne sais où. Et il y avait des SS dans une Jeep et ils avaient une mitrailleuse. Mais il y avait déjà, rue Alfred Bequet, des gens qui avaient sorti le drapeau belge. On entendait au loin des tirs, etc. Les Américains, sans doute, côté de ballon, etc. Et ils mitraillaient dans les fenêtres, là où il y avait des drapeaux. Alors, puis il y a eu un calme. Puis on a commencé à entendre les chars arriver, etc., des Américains. Là. Il y en avait qui arrivaient par la citadelle, par l'avenue Reda Street, là. Mais nous, ce que j'ai vu, moi, c'est celui qui arrivait rue Alfred Bequet, qui descendait rue Petonnier. Alors... là, naturellement, tout le monde était sur la rue, ils jetaient des chewing-gums, des cigarettes, Lucky Strike, je crois, du chocolat, je ne sais pas tout quoi. Et là, maman a eu la frousse de sa vie, parce que papa a sorti son vêtement de militaire, mettre son képi avec sa floche, il est sorti d'on ne sait pas où, d'une grenade à la main et un revolver. Et il a conduit les Allemands jusqu'au parc, parce qu'il y avait dans le parc, il y avait des tireurs d'élite qui étaient dans les arbres. Et il y avait une mitrailleuse au sol qui était pointée rue de Bruxelles pour tirer sur le carrefour de Manus, là. Et là, papa, en rampant, enfin, il nous a expliqué après, avec les soldats américains, ils ont essayé de déloger ça. Et il y avait un cousin à papa, un cousin à nous d'ailleurs, Achille Marlois qui était devant lui. Et Achille Marlois, à un moment donné, dit « Je vais traverser pour reprendre à revers les Allemands. » Et en traversant, il a ramassé une rafale, il a été tué. Et il y a une plaque commémorative au-dessus du parc, où son nom est noté. Et c'est papa, après, qui a été enlever sa bague et prendre ses papiers, prévenir la famille, quoi. Papa est revenu, sain et sauf. Et on ne savait pas du tout qu'il faisait partie de la résistance. C'est là qu'on l'a appris. Et en fait, il avait caché une grenade dans la maison et un revolver, etc. Personne ne savait, même pas maman, rien du tout. Ce que je me rappelle encore, c'est qu'on écoutait la radio. Ici, la France. C'était le général de Gaulle, je crois, qui parlait, etc. Et mon père écoutait parce qu'il notait des phrases. À ce moment-là, nous, on ne comprenait rien à tout ça. La guerre n'était pas finie, donc il y avait encore des batailles dans les Ardennes, etc. C'était l'hiver. Là, il y a tout un convoi de soldats américains qui sont restés toute la nuit, depuis la rue Alfred Becquet, toute la rue Patelier, etc. C'était tous des camions. Ils attendaient l'ordre pour remonter dans les Ardennes pour aller relever les troupes qui se battaient au front, quoi. Et papa, donc, était revenu, il avait ouvert son magasin, il était horloger bijoutier, lui. Et il avait fait du feu dans son magasin, c'était un poêle en fonte, là, avec du coq. Et les soldats venaient tour à tour se chauffer dans le magasin. Et maman a fait toute la nuit, elle a fait du cacao, du café chaud, etc., pour eux, quoi. Et nous, on était couchés, mais on regardait, malgré tout, on ne dormait pas complètement, quoi. Et puis, alors, à un moment donné, ils sont partis, naturellement, au front, quoi. Alors, une anecdote, ça, je ne sais pas si ça vaut la peine, mais enfin, je raconte quand même. On était gamins, nous, hein, et on jouait beaucoup dans les rues à ce moment-là. Et comme on entendait parler de la résistance, etc., on voulait faire un petit peu comme eux. On avait entendu dire qu'il y avait des Belges qui collaboraient avec les Allemands, des femmes et des hommes, etc. Ça se disait, on savait bien, tiens, monsieur un tel ou madame un tel, etc. Et il y avait notamment Richard Le Sout, un monsieur et une dame, d'ailleurs, qui courtisaient avec un Allemand. Et on allait acheter chez madame Casse, qui tenait un magasin au coin de la rue Patelier et de la rue Jupin. Elle tenait des babulaires, des farces, je ne sais pas tout quoi. On allait acheter, c'est des grandes, moi j'étais petit dans la bande, les grands allaient acheter des pétards, je les vois encore, des pétards en carton gris, comme ça. Ils les liaient ensemble, faisaient des portes, mais suffisamment plat que pour pouvoir entrer dans une boîte aux lettres. Alors le soir, on allait ouvrir les boîtes aux lettres de ces collaborateurs-là, on allumait ça et on mettait ça dans la boîte et puis on partait. On voulait faire comme les grands.
Que souhaiteriez-vous que les jeunes retiennent de cette période qu'a été la Seconde Guerre mondiale ?
Ce que je retiendrais, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut jamais oublier que tout ça peut revenir très vite. Parce qu'on oublie, ce qui s'est passé, entre autres, voilà, ce que j'ai vécu et d'autres. Il y a eu des atrocités, etc. Ne parlons pas des camps de concentration et autres. Et on le voit bien encore dans le monde actuel. Il suffit d'une tête brûlée, etc., et qui embobine des jeunes qui ne pensent plus à rien et qui croient que. Hein, et puis c'est reparti, quoi. Hein. Heureusement, nous avons l'Europe qui a été créée, qui est quand même un garde-fou, à mes yeux en tout cas. Mais ça peut très vite basculer. Hein. On a encore vu la guerre en Yougoslavie il y a quelques années, etc. Pourtant, ici en Europe, et puis on voit encore des mentalités qui sont fort différentes, même dans d'autres pays, hein, entre les Flamands et les Wallons. On voit ressurgir comme ça des troupes, en tout cas, qui galvanisent des jeunes, et puis qui, on ne sait pas trop bien ce qu'ils vont faire avec, quoi. Donc ça, je dis, il ne faut jamais oublier ça, un peu comme les gens qui ont été dans les camps de concentration et qui ont témoigné. Quand on sait qu'il y a des gens qui disent que c'est de la foutaise, ben là, je regrette. Hein. Ce sont des choses qu'on a vécues, et croyez-moi, ça a l'air d'être, je ne vais pas dire joyeux, mais c'était pas gai du tout. Hein.
De manière générale, quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes ?
Vigilance, vigilance, vigilance. Toujours bien mesurer le pour et le contre, et bien s'informer et demander conseil éventuellement aux anciens et dans les écrits.
Et voilà donc pour le beau témoignage d'Emile Waters qui habitait à Salzine quand il était petit, qui habite maintenant à Saint-Marc et qui a 86 ans. Et si vous aussi, vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter, plusieurs solutions à cela, soit par internet sur le site www.namuranguerre.be, par email à l'adresse info@namurinc.be, par téléphone au 0474 114 909, 0474 114 909 ou par courrier ASBL Namur INC, rue Moncrabeau 6 à 5000 Namur. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.